Oui, allô?
Oui.
Bonjour, Dil.
Bonjour.
C'est Mathieu pour le FIT.
Oui.
Bon.
Bien.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter?
Je m'appelle Odile Ducrot, j'habite à Aix-en-Provence et j'ai décidé de faire une recherche sur les ornements funéraires perlés suite à un souvenir d'enfance. Et donc j'ai commencé mes recherches en essayant dans les bibliothèques ou dans la recherche des métiers anciens, et je me suis rendu compte que personne n'avait traité de ce sujet. Donc j'ai fait des recherches et sur la région de Marseille, en Dordogne, à Lyon, sur Paris, pour trouver des éléments pour savoir qui faisait ces ornements perlés, à partir de quelles perles. Si elles étaient faites en France ou pas. Donc, elles étaient faites en France dans trois grandes usines sur Lyon, notamment. Et selon un procédé des perles de rocaille, du travail de verre des maîtres verriers vénitiens, puisque deux entreprises étaient dirigées par des Italiens vénitiens. Voilà. Alors, donc, j'ai déjà fait une recherche pour savoir comment fabriquer ces perles de rocaille. Par quel procédé. Et je me suis penchée sur le circuit de ces perles auprès soit des personnes qui étaient à domicile, soit des entreprises de fabrication de couronnes, proprement dites. Parce qu'il y a plusieurs volets dans la fabrication des fleurs de perles, à savoir soit elles étaient faites par des dames à domicile pour arrondir, comment on pourrait dire, les fins de mois. Soit c'était des entreprises qui étaient spécialisées dans la fabrication des fleurs. Et ensuite, il y avait des fabricants de couronnes dessinés dans toute la France, surtout sur Lyon et Marseille, en fait, et Paris, évidemment. Et les couronnes étaient montées soit par des entreprises, soit dans les hôpitaux, les baignoires qui partaient à Cayenne faisaient des couronnes funéraires dans les prisons. Voilà, ça représentait un travail de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes dans ces circuits pénitentiaires.
Et alors, vous parlez de tout ça au passé,
Oui.
c'est un art qui est révolu aujourd'hui, cet art funéraire?
Voilà, cet art funéraire s'est arrêté dans les années 50,
D'accord.
parce que, en fait, tout était monté sur du fil de fer. Et le fil de fer, évidemment, lorsqu'il était soumis aux intempéries, rouillait. Donc les couronnes se délitaient. Et les gens ne voulaient plus de couronnes funéraires rouillées sur leur tombeau. Et il y a eu l'avènement du plastique dans la vie quotidienne à tous les niveaux. Donc c'était fabriqué sur Oyonnax, la matière plastique
Ouais.
essentiellement. Et ils ont commencé à faire des fleurs en plastique pour remplacer les couronnes en perles. Mais bon, le plastique, ça n'a pas été génial non plus, dans la mesure où ça a passé au soleil et que, bah, ils ont vite abandonné aussi les ornements en plastique. Donc voilà, ça s'est tombé en désuétude par rapport à ça.
C'était très répandu, 18e, 19e, c'est ça?
Voilà. Et dans toute la France, en fait, c'était fabriqué dans toute la France et aussi distribué suivant les entreprises et aussi dans les empires coloniaux aussi. Il y avait des envois au Sénégal, enfin un peu partout, enfin dans tous les empires coloniaux de l'époque, en bref. Voilà.
J'ai dit 18e, 19e, c'est plutôt 19e et 20e du coup.
19e, 20e
Ouais.
plutôt. Ça a dû commencer vers les années. Disons en 1800, moi j'ai répertorié 1830, en fait, c'était, parce qu'au début c'était assez, disons, triste, si on peut dire. C'était des globes, c'était des objets religieux qui étaient enserrés dans des globes en verre, et autour il y avait une frise de perles. Et ensuite, quand il y a eu l'avènement de l'Art nouveau, ça a évolué et on a commencé à mettre des gros bouquets de fleurs de perles au centre des couronnes. Parce que les couronnes, elles pouvaient faire 1 m 50, 1 m 80, voire. Donc c'était assez imposant comme objet. Et on les pendait soit dans les chapelles. Alors on en trouve dans les anciennes chapelles qui sont fermées encore à clé, d'ailleurs. parce qu'elles sont à l'abri du vent et de la pluie. Et à l'extérieur, il y avait du fer forgé qui était scellé autour de la tombe et qui permettait de suspendre toutes ces couronnes.
Est-ce que du coup est-ce qu'il y a un symbolisme particulier? Est-ce que c'est un symbolisme chrétien sur ces couronnes?
Oui, enfin moi j'en ai trouvé que dans les cimetières, enfin catholiques protestants, donc.
Ouais.
Mais bon, chez les musulmans, il n'y a pas de décoration, de toute façon, sur les tombeaux. Ni pour les gens de confession juive, il n'y a pas d'ornement non plus sur les tombeaux. Donc en fait, c'était essentiellement enfin, chrétien, cette décoration.
D'accord. Est-ce que vous parliez de ce souvenir d'enfance? Est-ce que vous pouvez quand même raconter un peu plus sur cette
Sur
première
le souvenir d'enfance.
ouais, cette première
Alors, en
rencontre
fait,
avec...
voilà. Moi, je suis née à La Ciotat, au bord de mer.
Oui.
Et j'allais chez lui. Ma mère connaissait quelqu'un qui était dans un petit village qui s'appelait La Bouillalice. Et donc, elle m'a emmenée voir cette dame. Et cette dame avait un tourniquet, là. Enfin, j'ai envoyé le bouquin à un constant, là aussi. Enfin, c'était une cuvette, alors pour simplifier, pour expliquer si ça doit être oral. Donc, c'est une cuvette qui est montée sur un axe, une vis qu'on appelle ça, qui n'est pas fixe, je ne sais pas comment on dit. Et on tourne cette cuvette avec soit une bobine qui est mise dessus, soit une manivelle. Et avec la force, on met une bobine de fil. Quand on fait un crochet au bout et on plonge le crochet dans cette cuvette métallique. Et avec la force centrifuge, ça enfile les perles au kilomètre, enfin, sur la bobine de fil.
Allez.
Et ensuite, la manip, c'est de faire des pétales avec ce fil perlé. Donc, la dame chez qui j'allais, elle avait une grande armoire avec des bocaux avec plein de perles. Et elle me disait, bon, Odile, quelle couleur? Alors, je dis bleu, par exemple, et hop, elle me fabriquait des pétales bleus. Ou après, elle changeait ses perles. Et en fait, ce mécanisme avec ces perles qui s'enfilaient comme ça m'est resté vraiment gravé. Et ma mère ne comprenait pas, parce qu'on a dû aller la voir 2 ou 3 fois, mais pas plus, en fait. Et ça m'est vraiment resté dans la tête. Et c'est beaucoup plus tard, quand je devais avoir 20 ans, peut-être, que je suis allée dans un cimetière et j'ai trouvé ces fleurs de perles sur les couronnes qui étaient un peu déglinguées. Et donc je me suis dit, mais qui faisait ça? Pourquoi elle faisait ça? Et je me suis mis à faire des recherches et c'est là que j'ai retrouvé, notamment à Saint-Victoré, à côté de Marignane, une dame dont les parents étaient fabricants de couronnes de perles. Et c'est comme ça s'est. Ça s'est mis en place où j'ai cherché, après j'avais contacté par exemple le musée funéraire de Paris, qui m'a fait passer une annonce dans le journal de la profession du funéraire, en demandant aux personnes de me donner des témoignages. Donc j'ai rencontré des gens à Avignon qui avaient encore des couronnes, etc. Et c'est comme ça que c'est venu mon histoire d'immortaliser ça, puisque personne n'a jamais écrit sur le sujet. D'ailleurs, la dame de Saint-Victoré était interloquée, elle disait quand même c'est bizarre que quelqu'un qui n'ait rien à voir avec nous, en fait,
Ouais.
se penche sur le sujet. Parce qu'évidemment, si je l'avais fait beaucoup plus tôt, cette étude, j'aurais eu beaucoup plus de matière pour travailler là-dessus.
Mais vous finalement, c'est un travail de passionné, ou vous en avez fait votre métier, vous avez fait des études dans ce sens-là, comment?
Non, pas du tout, pas
Non.
du tout. J'en ai pas fait mon métier. Là, je suis retraitée, là, de toute façon. Mais non, non, moi, c'était pour sauvegarder, en fait, la mémoire de cette dame que j'avais rencontrée lorsque j'étais enfant. Et puis, de ce travail, parce qu'en fait, ça occupait des milliers de femmes, ce travail-là. Et à domicile, et par exemple, il y a un village à côté de chez moi qui s'appelle Furot, où j'ai pu, grâce à la mairie, réunir les anciennes du village. Et qui m'ont donné leur savoir-faire, en fait.
D'accord.
Donc moi, je sais faire des pétales de fleurs, et enfin, je sais les fabriquer, mais je n'en fais rien de particulier à part de le savoir, quoi.
Ouais, d'accord.
Voilà, je pourrais en faire. Alors j'ai récupéré évidemment plein de plein de fleurs différentes, parce qu'en fait, elle fabriquait des fleurs, mais toutes les fleurs possibles, imagine, hein, ça part du liseron à la rose, au nénuphar. Enfin, c'est vraiment toutes les fleurs représentées et toutes les feuilles, en fait, représentées aussi. Et donc là, j'ai monté des perles, des lampes, par exemple, des choses comme ça,
D'accord.
avec des fleurs de perles.
Mais vous, depuis tout à l'heure, vous citez Avignon, La Ciotat, bon, ce village de la Bouilladine dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que c'est un art qui était spécifique à cette région-là du sud de la
Ah non,
France?
non, pas du tout, pas
Non.
du tout, pas du tout.
D'accord.
Non, c'est parce que moi, j'ai fait mes principales recherches, je les ai fait autour de chez moi, puisque quand j'ai les ai faites, je travaillais. Donc,
Oui, c'est
non,
ça.
non, mais par exemple, à Lyon, il y avait je ne sais combien d'entreprises de fabrication de couronnes.
D'accord.
C'était un des centres majeurs de fabrication de
Mmh,
couronnes, d'ailleurs.
d'accord. Ok.
Donc, il y avait tout un quartier qui était dédié à ces fabricants. Et ces fabricants de couronnes, en fait, étaient montés en. Je sais pas comment on peut appeler ça, en corporation en fait. Parce qu'ils exposaient même leur couronne aux foires universelles, à l'exposition universelle. Donc, et il y avait, alors j'ai pu récupérer des documents où on explique aussi la législation qui régnait dans les entreprises, puisque les femmes travaillaient avec du fil de fer. Donc, tétanos, donc contrôle du travail, etc. Et il y a tous les textes de loi par rapport au travail, au prix de l'heure de travail, etc. Ils
D'accord.
étaient très. Enfin, c'était pas quelque chose d'anodin, c'était vraiment une guilde, en fait, hein,
Ouais.
de fabricants de couronnes. Alors, moi, je parle beaucoup, enfin, je vous parle parce que, enfin, de mes villages alentours, c'est là que j'ai travaillé, j'ai eu l'essentiel de mon. De mes informations, en fait. Mais bon, je suis allée à Lyon ils avaient un journal qui s'appelait La Couronne, dans
D'accord.
lequel il y avait le président de la chambre syndicale des fabricants de couronnes, etc. C'était quelque chose qui était bien constitué, en fait.
D'accord. Pour l'exposition au musée Bargoin, là, ce seront des photos que nous verrons. On verra 7 photos. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'on verra?
Eh bien, vous verrez des couronnes qui ont été fabriquées en 1900. Alors, la date exacte, je ne l'ai pas. Ce sont des couronnes qui m'ont été données,
D'accord.
mais je n'ai pas l'étiquette qui prouve la date exacte. Donc, ce sont des couronnes de fleurs de perles, voilà, que je mets à la disposition du musée pour l'exposition.
Je suppose que dans toute cette œuvre prolifique, vous avez dû en choisir, ben voilà, 7. Pourquoi avoir choisi ces 7-là en particulier?
Parce que c'était les plus belles.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour vous, elles sont plus jolies que les autres?
Eh bien, c'est-à-dire que j'ai très peu, en fait, de couronnes qui sont intactes, en fait. Donc, en fait, j'ai pris dans celles qu'on m'avait données, que j'avais pu récupérer, les plus jolies, les plus acceptables, parce que j'en ai, mais qui sont un peu, comment dire, abîmé. Donc, pour une exposition, c'est pas très souhaitable de montrer aux gens. Parce que souvent, quand je dis aux gens que j'ai fait un travail là-dessus, tout le monde me dit que je suis farfelue, quelle idée, etc. Mais après, les copines, notamment, me disent, ah, mais moi, j'allais au cimetière récupérer des perles quand j'étais petite.
Hey.
Et parce que, en fait, c'est ça, en fait. Comme c'était déglingué, qu'on les met, que après, l'employé municipal mettait ça devant les poubelles, les jeunes allaient récupérer les perles pour faire des colliers.
Ah ouais.
Voilà. Et moi, paradoxalement, je n'ai jamais fait. Alors que j'ai fait la recherche sur le sujet. Donc, en fait, j'ai pris mes couronnes les plus belles pour vous les prêter pour montrer ce travail.
Et en quoi c'est pour vous ces couronnes funéraires ont leur place dans cette thématique love, etc.
Je me dis que c'est là, pourquoi pas l'amour des gens pour leurs défunts, pourquoi ça pouvait être un gage d'amour dans la mort, quoi, en bref.
Quelle est vous votre approche justement de l'amour? Le titre c'est pas love tout court, c'est love, etc. Comment
Ouais.
vous comprenez ce love, etc.?
Eh bien, alors j'ai regardé un peu ce que vous exposiez, parce que bon, quand même, j'ai une idée de savoir. Quelle était pour moi l'aboutissement de prêter ses couronnes. Donc je vous dis, love, etc., je sais pas, c'est la beauté, moi je dirais. Etc., c'est la beauté.
Donc, love serait l'amour pour les défunts et la particule, etc., serait la beauté qu'on veut mettre pour accompagner ce défunt-là, ce sera?
Voilà, tout à fait. Parce que c'est quand même un travail, enfin, vous le verrez, enfin, je veux dire, c'est un travail très précis et d'harmonie, en fait, parce que les gens qui faisaient les couronnes, qui faisaient les patrons, non seulement des couronnes, c'était souvent des orfèvres. Ou des gens, par exemple, dans l'atelier de fabrication, qui avaient le plus grand sens artistique pour mêler les couleurs et les formes dans la couronne. Donc pour moi, c'est une histoire de beauté aussi, du travail.
Très bien. Ben ça me convient.
Voilà, si ça vous... C'est fabuleux, alors, si ça vous convient.
Ça me convient. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on n'a pas abordé? Pour vous, c'est essentiel d'entendre sur ce travail, sur cet art.
Bah, moi, je dirais qu'en fait, c'était un travail magnifique, s'il en est, mais assez fastidieux quand même. Parce qu'il fallait passer des heures et des heures à enfiler ces perles, à les nouer, à les constituer. Et c'était pour beaucoup de femmes, je parle des femmes à domicile, ou même des ouvrières, parce qu'en fait, les ouvrières. On parle du travail des enfants actuellement dans les pays du tiers-monde, comme on dit, entre guillemets. Mais les gamines, en 1930, elles travaillaient 15 heures par jour. Et elles avaient moins de 12 ans, les filles. Donc, c'est, si vous voulez, ce que vous voulez faire ressortir, c'est ce rapport avec cette beauté du travail de la perle, parce que c'est pareil, chez les perliers, les gamins travaillaient très, très dur devant des fours à 1200 degrés. Et ce travail et la pénibilité est pour arriver à un résultat d'harmonie, en fait. C'est ça que je voulais faire dans le ressort. Évidemment, dans mon bouquin, j'ai pas traité de toutes les conditions de travail, les conditions de vie des gens à cette époque-là. Parce
Ouais.
que sinon, j'aurais fait un pavé et ce aurait été une thèse sur autre chose.
Vous auriez fait une encyclopédie, quoi, en plusieurs tomes.
Voilà,
Oui.
j'aurais fait autre chose. Enfin voilà, donc c'était, enfin pour moi, ça représente, si vous voulez, un travail de beauté et une porte de sortie pour pas mal de gens, comme tous les gens à cette époque-là, quand ils travaillaient à la maison, les brodeurs, les lasseurs de chaussures, etc. C'est un autre monde qui aussi que je voulais préserver, en fait, les conditions de travail d'un autre monde. Enfin, d'une autre époque, dirons-nous.
Okay. Très bien. Merci infiniment, Odile. À
Merci
bientôt.
Mathieu. À
Au revoir.
bientôt. Au revoir.